Le premier dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Les versets 6 et 7 du chapitre 8. Cantique des Cantiques 8, 6 et 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et en disant cela, je pense au spectacle d'hier après-midi avec nos trois amis italiens, les eaux de Trümmelbach. Hein? Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Dans le prophète Osée, au chapitre 2, Osée chapitre 2, versets 21 et 22, Osée 2, 21, 22. Une parole de l'Éternel à Israël. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, une profonde compassion. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 19, versets 9 et 10, nous avons lu l'ensemble du passage. Nous nous arrêtons juste sur la réaction des disciples de Jésus. Matthieu 19, je lis la fin, verset 9, la fin du court enseignement de Jésus, où Jésus dit ceci, verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et puis enfin, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, Jean chapitre 4, les versets 7 à 18, Jean 4, 7 à 18, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Nous avons considéré hier matin la question de l'harmonie du couple dans son introduction générale, en soulignant en premier lieu que le mariage a été institué par Dieu avant la chute de l'homme, d'où toute une cascade de remarques très positives le concernant. Et après cette série de remarques positives concernant le mariage, dans sa perspective divine, nous avons tenté très brièvement de répondre à la question suivante, mais alors pourquoi un tel gâchis? Dans un troisième temps, nous avons souligné que le mariage subit les assauts du malin parce qu'il est notamment une prédication en acte, une évangélisation à la fois naturelle et surnaturelle. Nous avons évoqué l'importance du long terme quant aux répercussions de la vie conjugale sur les générations qui suivent par le biais de nos enfants. Et nous avons terminé en soulignant la nécessité de ne pas idéaliser le mariage, de faire preuve du même réalisme qui était notamment celui de l'apôtre Paul lorsqu'il répondait à certaines questions des membres de l'Église de Jésus-Christ à Corinthe. J'annonçais en fin d'étude hier matin que nous allions considérer ce matin la priorité par excellence. Nous construisons sans brûler les étapes et nous voulons donc considérer la priorité par excellence en vue d'une vie conjugale harmonieuse. Nous allons l'aborder sous un certain angle, d'autres le feraient d'une autre manière, mais j'aimerais souligner tout d'abord que qui dit couple, qui dit famille, dit bien entendu, cela va de soi, relation avec les autres. Et c'est moins banal qu'il y paraît. Notre vie sur la terre est un tissu de relations. Nous avons tout d'abord des relations que j'appellerai de type social, avec d'autres personnes. Nous le savons, nous qui sommes ici par excellence, depuis avant-hier soir, ceux qui nous ont rejoints hier ont pénétré dans un tissu de relations sociales, avec tout ce qu'elles signifient, comme nécessité de mesures à prendre, d'adaptation, nous y reviendrons dans notre prochaine étude. Mais nous avons aussi des relations de type matériel. Et là encore, par excellence, nous savons ce que cela peut signifier, dans la mesure où nous arrivons ici dans un cadre, que certains connaissent de longue date, mais qui pour d'autres est un cadre nouveau. Il faut s'adapter, il faut entreprendre une relation, là aussi, de type matériel, avec des objets qui nous entourent, avec un lieu, avec une chambre, avec des lavabos, avec un pupitre pour moi et un micro, avec aussi la nature qui nous entoure, un ciel qui peut être parfois bleu, parfois gris, je n'en ajoute guère sur ce plan, hein. Nous avons aussi des relations avec le monde animal qui nous entoure. Nous en avons eu quelques merveilleux exemples hier soir au travers de ce splendide film sur les Alpes. Et puis enfin, nous avons une relation avec nous-mêmes, une relation qu'on pourrait appeler, si vous voulez, de type psychologique. Je suis en relation avec moi-même. C'est évident, même si nous n'y pensons pas en ces termes, nous pouvons avoir des problèmes dans nos relations avec nous-mêmes. Et très souvent, quand on arrive dans un lieu où on se retrouve pendant quelques jours, eh bien, chacun arrive aussi avec parfois ses crises dans sa relation avec sa propre personne. Nous aurons l'occasion d'en parler plus longuement. Mais ce que je voulais souligner en évoquant ce tissu de relations dans ces différentes dimensions, c'est que ma vie, la nôtre donc, est épanouie, harmonieuse, équilibrée dans la mesure du possible, hein. Nous relativisons quand même quelque peu, nous sommes sur la Terre, dans la mesure où mes relations sont justes dans chacun de ces trois domaines. Et là encore, je pense que vous pouvez très bien, un court instant, réfléchir à vos relations dans ces trois domaines depuis avant-hier ou depuis hier, pour certains, ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui. On peut être, là aussi, plus ou moins bien dans sa peau, dans la mesure où on est en train de prendre des mesures de la maison dans laquelle on est, du climat, des voisins que l'on a, etc. Nous avons besoin d'éprouver de la satisfaction dans chacun de ces domaines. Pourquoi est-ce que je vous ai dit cela? Tout simplement pour mieux faire ressortir une constatation fréquente et majeure. Et pour la faire ressortir, je procéderai simplement par une question. Quelle est notre principale préoccupation lorsque nous nous marions? Quelle a été notre principale préoccupation? Quelle sera notre principale préoccupation lorsque nous nous marierons? J'ai sous les yeux une histoire vraie, intéressante, que je comprends. Il s'agit du gérant d'une bijouterie qui se mariait. La cérémonie battait son plein et c'était le moment, toujours très émouvant et solennel, d'échanger les alliances. Alors il glisse l'alliance au doigt de celle qui devenait sa femme, et à ce moment-là, il devait prononcer une formule, et il a quelques instants d'hésitation. Avec cette alliance, lui souffle le pasteur, et le fiancé, hein, de dire avec cette alliance, nous donnons une garantie écrite en rappelant au client que le prix lui sera remboursé s'il n'est pas satisfait. J'aurais eu du mal à croire cette histoire authentique si je n'avais pas vécu dans une église que je visitais une expérience à peine moins comique, dans un moment à peine moins solennel, où un gérant d'établissement hôtelier, qui était aussi ancien dans une église et qui avait fait les mêmes activités tous les jours précédents, dans son introduction, à un moment donné, a largement dérapé en reprenant le langage de son accueil d'hôtelier jusqu'au moment où il s'est rendu compte que ça ne collait pas du tout avec ce qu'il devait partager. Quelle est notre principale préoccupation lorsque nous nous marions? Je le souligne parce que beaucoup de gens se marient d'abord pour satisfaire un certain nombre de besoins personnels. Vous me direz, qu'y a-t-il de mal à cela? Il n'y aurait pas grand mal si ce n'était pas leur préoccupation essentielle. Que nous nous marions pour satisfaire certains besoins jusqu'à un certain point, Dieu est d'accord, la preuve, nous l'avons vu hier. Il fallait rompre avec un isolement qui n'était pas bon. Donc ne nous inscrivons pas dans une espèce d'hyper-idéalisme qui voudrait que nous n'ayons pas de besoins à satisfaire dans le mariage, nous aurions tort, même au regard de Dieu. Mais le problème, c'est quelle emphase, quel poids nous donnons à ce besoin. J'ai sous les yeux, là encore, une histoire tout à fait authentique d'un client, d'un avoué, chez qui quelqu'un travaillait et qui visite donc cet avoué juste avant de se remarier avec une veuve. Et juste avant leur cérémonie de mariage, ce futur couple, tout près de se marier, rendent visite à l'avoué pour modifier leur testament respectif. Et au moment où ils s'apprêtent à repartir, après avoir fait le nécessaire, en présence de l'homme de loi, la femme dit dans un dernier élan, je ne pensais pas me remarier un jour, mais c'est vrai que je me suis sentie affreusement seule après la mort de mon second chat. J'espère que celui qu'elle allait épouser ne l'a pas entendu. Autre exemple, tout à fait authentique, on fit paraître dans un journal une annonce qui se lisait comme suit, je la lis telle qu'elle, « Fermier veut marier femme, 35 ans, avec tracteur. » C'est pas fini. Envoyez photo du tracteur. Il y a un certain nombre d'années, en Allemagne, une jeune Allemande âgée de 19 ans, Heidi Richter, a épousé un prince arabe qui la répudia quelques jours plus tard. Et pour savoir jusqu'à quel point la jeunesse féminine allemande était vulnérable dans sa recherche de la gloire, un journaliste fut chargé d'enquêter à ce sujet par le service de protection de la jeunesse d'Allemagne à l'époque d'Allemagne de l'Ouest. Et ce journaliste, fit alors insérer dans la grande presse l'annonce que je vous livre. Rich Sheikh, propriétaire de puits de pétrole, cherche jeune européenne de moins de 22 ans, disposée à entrer dans son harem comme 44e épouse. 3 jours plus tard, ce journaliste avait déjà reçu plus de 2000 réponses favorables. Et le plus tragique était dans la conclusion du journaliste qui, bien sûr, fit une enquête au niveau de ses réponses et constata que ce n'était pas d'abord le problème de la jeunesse, mais celui des parents. La plupart des réponses émanaient, pardon de le dire, je le fais en tant qu'homme, mais c'est le texte qui le veut, la plupart des réponses émanaient de mères ambitieuses qui n'avaient même pas consulté leur fille. Ce sont des flashs. Quelques flashs, 3 ou 4. Mais qui sont le reflet de situations tellement courantes et qui m'amènent à dire que beaucoup trop de gens se marient justement, pratiquement uniquement pour satisfaire certains besoins personnels. Et ils attendent de la famille, du conjoint, des enfants, qu'ils satisfassent leur cœur, leur corps, éventuellement leur portefeuille, leurs ambitions et que sais-je encore. C'est-à-dire que l'autre est conçu comme un objet, comme un moyen de satisfaction personnelle. Et ça, c'est notre problème depuis la chute. Nous sommes comme des éponges qui cherchent absolument à recevoir, à être remplis. Et c'est pour cela, je pense que vous en rendez compte maintenant, que nous avons lu ce texte de Matthieu 19, verset 10, où les disciples, à l'écoute des exigences du mariage selon Dieu, de dire, qu'est-ce qu'on en tire comme avantage? Voyez donc la mentalité des disciples eux-mêmes. Ce n'est pas du tout avantageux pour nous, hommes, d'envisager une relation de ce type avec la femme, si telles sont les conditions divines au mariage. Et il faut souligner que la raison de tant d'échecs, non seulement aujourd'hui, mais hier, au niveau du mariage et de la vie de famille, est à rechercher là. Dans ce fait que ni le conjoint, ni les enfants ne peuvent satisfaire pleinement, totalement, le cœur humain. Et quand je disais dans notre introduction, déjà avant-hier soir, que ce que nous partageons sur la vie conjugale, sur la vie familiale, avait des applications tout autres, nous pourrions voir ces applications ce matin. Parce que ça, c'est un problème que l'on retrouve dans l'Église. C'est un problème que l'on retrouve dans un centre de vacances alpestre comme le Berghaus ici à Isenfluh. À savoir que nous sommes toujours tentés de venir à quelque part animer simplement
de ce souci, il faut absolument que mes besoins, quels qu'ils soient, soient pleinement satisfaits. Ça tue nos églises locales, mes chers bien-aimés. Quand nous entrons dans nos églises pour des rencontres avec des exigences suprêmes, en les considérant comme une pompe à essence, dans lesquelles il nous faut absolument du super et du super sans plomb, il est évident que nous allons faire œuvre de démolition. Parce que même l'Église en elle-même, les meilleurs conseils d'anciens, les meilleurs serviteurs, les meilleurs pionniers, les meilleurs pasteurs, les meilleurs missionnaires, etc., restent des pécheurs. Graciés, certes, et qui doivent avoir de saines ambitions de qualité de vie, c'est vrai. Mais reconnaissons-le, l'Église locale ne peut pas satisfaire en elle-même mes besoins. Et le problème est d'autant plus aigu aujourd'hui que nous sommes dans un monde terriblement vindicatif, revendicateur, qui se plaint tout le temps. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde qui est terriblement centré sur lui-même. Après moi, déluge. L'essentiel, après tout, c'est que je puisse satisfaire mes besoins. J'ai des besoins de tous ordres, sexuels, etc. Et l'essentiel, c'est que je puisse les satisfaire. Si pour cela je dois écraser, faire mal à autrui, l'exploiter à fond, peu importe. Je suis le nombril du monde, n'est-ce pas ? Et le problème, c'est que nous entrons dans l'Église de Jésus-Christ par la nouvelle naissance, mais une nouvelle naissance qui n'empêche pas, comme je le dis souvent, la vieille nature de gigoter dans son cercueil. Et nous avons de la peine dans ce domaine à accepter, comme nous allons le voir, la croix dans nos vies. Et nous sommes tellement, tellement tentés par l'égocentrisme dans nos vies d'église. Vous savez qu'il devient parfois très difficile de faire fonctionner des centres d'accueil comme celui-ci. Personne ne m'a dit de le dire ici. Mais je le dis parce que d'année en année, je fréquente pas mal de ces centres dans lesquels on m'invite pour l'aumônerie de la maison, pour des conventions, etc. Donc, je vis au contact du personnel. Et ça devient difficile. Parce qu'on est exigeant. Ah, parfois tout nouveau, tout beau, hein. Et puis, dans les jours qui suivent, on découvre ceci, cela. J'ai été très frappé par le fait que nos amis qui ont présenté la maison avant-hier soir, notamment, ont vite souligné, cela apparaît aussi dans la documentation que nous avons chacun dans nos chambres, le fait que cet endroit n'est pas un 4 étoiles. Que ceux qui y servent au titre de bénévoles. Comme si on avait vraiment besoin, aujourd'hui plus que jamais, de dire, écoutez, s'il vous plaît, ayez pitié de nous quand nous faisons des bêtises, quand nous faisons des fautes, quand nous oublions quelque chose, parce que nous sommes incapables, finalement, de satisfaire tous vos besoins si vous n'êtes venu que pour cela, n'est-ce pas, vous comprenez ? Et beaucoup de nos problèmes, mes bien-aimés, viennent de là. Vous savez qu'actuellement, sur le champ missionnaire, outre-mer, et je suis chaque année 2 ou 3 fois par an outre-mer, le pourcentage de missionnaires qui rompent leur contrat ou qui ne retournent pas sur le champ missionnaire après un premier terme est de plus en plus important. Il y a quelques années, il était déjà de plus de 50% pour des raisons en majorité d'ordre relationnel. Relationnel. Et c'est vrai qu'il y a sur le champ missionnaire des exigences qui font que si vraiment on veut être satisfait dans tous ses besoins, mieux vaut aller dans un hôtel 4 étoiles. Mais pas sur le champ missionnaire. Trop atteindre de l'autre est source de déception, de souffrance et de désillusion. Que de frottements, que d'aigreurs, que de reproches, que de possessivité, que de jalousie, que d'infidélité sont nés de cette mauvaise optique dans nos relations les uns avec les autres. Et là, j'ai été très heureux ces derniers jours en lisant un nouveau livre dont je fais la pub maintenant, parce qu'il est publié par Maison de la Bible, et qu'il se trouve dans la librairie que vous pouvez aller visiter tout à l'heure. Il est le dernier ouvrage de Francis Schaeffer, Libéré par l'Esprit. Je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas encore lu, mais il vient de sortir, c'est tout nouveau. Et dans ce livre, le lisant ces derniers jours, ou plutôt même au Sénégal, j'ai relevé ces réflexions de Francis Schaeffer, Libéré par l'Esprit, collection Veritas, Maison de la Bible. L'homme qui essaie de trouver l'absolu dans l'amour ou l'amitié humaine détruit tout à la fois ce qu'il recherche et l'être aimé. Il l'épuise, le dévore et finit par l'anéantir ainsi que la relation qui les lie. J'anticipe là, le chrétien n'est pas condamné à ce processus. Sa soif de communication et d'amour se trouve, selon le dessein divin, comblée en Dieu lui-même, le Dieu infini et personnel, sur la base de l'œuvre de Christ à la croix. Cela vaut également pour les rapports entre les parents chrétiens et leurs enfants. Si nous recherchons l'absolu dans une relation humaine en oubliant que ni nous ni nos enfants ne sommes parfaits, nous détruirons nos enfants. Le pont des relations humaines n'est tout simplement pas assez solide. À essayer de lui imposer une charge trop lourde, nous causons notre propre perte et détruisons la relation elle-même. Et pourtant, les relations humaines peuvent être magnifiques si nous ne recherchons pas en elles l'absolu. Toujours dans ce livre, un autre passage. Si je reconnais que je ne suis pas Dieu, et que tous les hommes sont pécheurs depuis la chute, je suis capable d'entretenir avec mes semblables de véritables relations humaines sans me laisser abattre par leurs insuffisances ou leurs imperfections. L'homme sans Dieu ignore que tous les hommes sont pécheurs. De ce fait, il attend trop de ses relations personnelles, si bien qu'elles finissent par s'effondrer et se rompre. Aucune relation d'amour entre un homme et une femme n'a jamais été assez grande pour supporter une telle exigence. Elle finira par se désagréger et se détruire. Mais dans ma position de créature, en présence du Créateur, conscient que ma relation ultime est avec un Dieu infini et que mes relations avec les hommes sont d'égal à égal, je peux ramener ces relations humaines aux dimensions voulues par Dieu sans leur imposer une charge excessive. Bien plus, lorsque j'admets que personne ici-bas n'est parfait, il m'est possible de voir la beauté d'une relation et d'en jouir sans pour autant m'atteindre à la perfection. Le problème existe aussi chez le disciple de Christ. Parce que nous sommes, sur la base des Écritures, tentés d'être très exigeants à l'endroit des autres. Généralement beaucoup plus exigeants que nous ne le sommes vis-à-vis de nous-mêmes. Oh, nous nous permettons en douce bien des petits égarements, alors même que nous sommes implacables à l'endroit des autres. Et cela peut faire de notre vie conjugale et de notre vie familiale, notre vie ecclésiale, une sorte d'enfer. Voilà pourquoi nous disons, et c'est là la priorité par excellence, que l'harmonie, l'équilibre de mes relations horizontales, faut-il le dire, dépend de la qualité d'une relation verticale avec Dieu. Et il eût été folie de vouloir aller plus loin sans souligner et approfondir cette dimension-là parce qu'elle est d'importance capitale. Seul Dieu est capable de vraiment satisfaire et remplir le cœur humain après l'avoir purifié par le sang de son Fils Jésus-Christ. Nous avons lu Jean 4. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'aime me souvenir, généralement on ne met pas l'emphase à cet endroit, et pourtant je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas le faire. J'aime me souvenir que Jésus, en disant cela, s'adressait à une femme qui avait eu 5 maris. Et qui vivait avec un 6e homme qui n'était pas son mari. Donc qui n'avait pas trouvé satisfaction dans ses relations successives. Et je crois que c'est d'abord à elle, n'est-ce pas, dans sa situation personnelle, que Jésus s'adressait. En lui disant, mais femme, ce que tu n'as pas pu trouver pour répondre à tes besoins profonds dans tes relations successives, au point même que maintenant tu as abandonné l'idée même du mariage lui-même, bien je peux te le donner. Je peux combler ta vie au point que tu n'aies pas besoin d'un 7e, d'un 8e, d'un 9e, d'un 10e. Parce que tu auras trouvé en moi, par le Saint-Esprit que j'enverrai, quand j'aurai rejoint mon Père dans la gloire, tu auras trouvé la plénitude de satisfaction que l'homme peut connaître ici-bas. C'est le texte de Jean 7, tellement beau aussi dans cette perspective. Le dernier jour, le grand jour de la fête, je lis le verset 37, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et j'aimerais préciser ici une chose qui n'apparaît pas dans le texte français, mais qui est forte dans le texte grec, qui joue sur l'usage des temps. Et vous avez notamment 2 possibilités par rapport à la manière de conjuguer ici. Cela peut être soit un présent, soit ce qu'on appelle un aoriste. Il y a une différence sensible entre les deux. Si je dis à mon frère Samy, frappe-moi, j'espère qu'il s'arrêtera très vite. Parce qu'en français, frappe-moi, ça veut dire une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, jusqu'à ce que mort s'en suive éventuellement. Il n'y a pas de nuance. En grec, si vous utilisez le présent, ça sous-entend « frappe-moi autant que tu veux ». Un sens progressif de continuité. Alors là, je ne le ferai jamais. Je n'utiliserai jamais le présent pour ça. Par contre, si j'utilise l'aoriste, alors « frappe-moi une fois, puis c'est tout, ça s'arrête là ». C'est le temps de l'accomplissement, le temps historique. Et dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, très souvent, il faut discerner. Le contexte le permet, parfois c'est l'enseignement qui le permet, de faire la distinction. Et ici nous avons un présent, c'est-à-dire si quelqu'un a continuellement soif, tout au long de sa soif, s'il est assoiffé de manière continuelle, eh bien qu'il vienne à moi continuellement. Parce qu'on pourrait mal comprendre, dire bon, ben, je viens à toi une fois, puis le problème est réglé pour la vie. Non ! Qu'il entre dans une communion permanente, intime, au jour le jour, d'heure en heure, d'instant en instant, qu'il vienne à moi continuellement et qu'il continue à boire. C'est toujours du présent. Il y a vraiment cette dimension de soif inextinguible, mais qui est satisfaite en permanence dans la qualité de ma relation avec Dieu en Jésus-Christ. Donc, importance d'avoir un ciel ouvert, une relation personnelle avec Dieu par le Christ vivant. Je pense à ce beau texte de Romains au chapitre 5 et au verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs ou versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et là encore, le texte original est très beau. « L'amour de Dieu qui est versé, sous-entendu, hors du cœur de Dieu, dans notre cœur. » Et le temps qui est utilisé laisse entendre que cet amour de Dieu a été versé au moment où nous sommes venus à lui, à la croix. Et ses effets sont continus dans le présent, n'est-ce pas? D'heure en heure, cet amour continue à déborder du cœur de Dieu dans notre cœur. Il y a là aussi toute une dimension de continuité qui fait que dans certaines versions, le verbe est au passé, dans d'autres, le verbe est au présent, tout simplement parce qu'il y a cette double idée dans le texte. L'amour de Dieu a été et continue à être versé du cœur de Dieu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Or, c'est de cet amour dont j'ai besoin pour la vie conjugale, pour la vie relationnelle tout court, pour la vie familiale, pour la vie ecclésiale. C'est de cet amour de Dieu, l'agapé, un amour pur, désintéressé, un amour qui se donne, un amour qui pardonne, comme nous le verrons, un amour courtois, respectueux, patient, même à l'endroit de celui ou de celle qui ne le mérite pas. Je ne sais pas si nous mesurons tout ce que cela signifie. Non pas donc l'éros, le désir des sens, l'amour de désir avant tout, cet amour qui cherche sa propre satisfaction dans l'être aimé. Cet amour qui considère l'autre comme un moyen de satisfaire ses besoins sexuels, d'assouvir ses instincts. Un terme qui avait une certaine noblesse, mais qui, dans son usage dans le monde grec, avait subi une telle dégradation que les rédacteurs inspirés du Nouveau Testament n'ont pas pu l'utiliser. Et j'étais tellement heureux ce matin, tout à l'heure, quand nous avons chanté Ésaïe 54:10. Un des plus beaux textes de l'Ancien Testament sur les qualités de l'amour de Dieu. J'ai parlé longuement l'an dernier ici, lorsque nous avons évoqué Naomi, etc., dans le livre de Ruth. Nous avons parcouru le livre d'Osée en relation étroite avec le livre de Ruth et nous avons mis en évidence un terme. Un terme du vocabulaire hébreu de l'Ancien Testament, qui est un des plus beaux termes des Écritures. pratiquement intraduisible et qui est vraiment tout le programme de l'amour de Dieu. Le terme Hesed, terme merveilleux, qui est traduit suivant les versions par miséricorde, par bienveillance, par bonté, parfois par amour constant, par fidélité. D'autres traducteurs ont même suggéré amour loyal, fidélité aimante. Difficile à traduire, parce que c'est une sorte de mélange très étroit d'amour, de fidélité, de compassion, mais tout cela dans un cadre bien précis, dans le cadre d'un contrat, dans le cadre d'une alliance, dans le cadre d'un mariage. Mariage entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est le mot-clé. Dieu qui a accepté, lui, le grand Dieu transcendant, qui dépasse infiniment le cosmos, qui a accepté de signer un contrat d'amour loyal avec le peuple qu'il avait choisi, Israël. Et qui s'engage en signant ce contrat à être fidèle jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ésaïe 54, 10. Et Israël, en quelque sorte l'épouse, va se montrer d'une infidélité notoire, va vivre des prostitutions successives, toutes plus immondes les unes que les autres, va se vautrer dans l'infidélité. Et pourtant, Dieu, sur la base de ce contrat, ne va jamais totalement abandonner son peuple. Au point même que la situation va devenir tellement critique qu'à un moment donné, plutôt que d'abandonner son peuple, Dieu va décider d'établir un nouveau contrat. La nouvelle alliance. Dans lequel il y aura une différence sensible. Ce jour-là, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je leur donnerai mon esprit. Je ferai qu'ils suivent mes ordonnances. Je leur donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair, etc. Le Hesed de Dieu, qui est parfois traduit par le mot grâce. C'est la grâce tout au long de l'ancienne alliance, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, c'est ça. Et ce qui bouleverse ma vie de plus en plus, au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, c'est de constater cette stabilité, cette loyauté, cette immuabilité d'un Dieu qui ne varie jamais d'un cheveu dans son caractère. Et en particulier dans son amour pour moi. Dieu ne change pas. Je fluctue, je suis un être qui fluctue. Je sais qu'il y a des engagements que je n'arrive pas à tenir. Malgré mon plus profond désir, je sais combien je suis tenté par l'esprit d'indépendance, par l'autonomie, la vie selon mes propres lois. Combien je glisse facilement vers l'infidélité en commençant par le domaine des pensées. Et combien le diable, dans ces moments-là, me dit « Fais attention parce que Dieu est en train de changer à ton égard. Si tu continues comme ça, Dieu va cesser de t'aimer, il va se détourner de toi, il s'occupera plus de toi, il va te plaquer. Et Dieu me rappelle son reset. Il continue à m'aimer. Comme le père dans la parabole du fils prodigue. Il a laissé partir le fils. Mais quel amour dans l'attitude de ce père. Son fils était certainement loin de penser que l'amour de son père pouvait être à un tel degré alors qu'il était en train de se vautrer dans la boue et de garder les cochons. L'agapé de Dieu. L'agapé de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit remplit mon cœur, alors mes relations changent. Lorsque le Dieu d'amour règne dans ma vie, alors mes relations changent. Et je suis donc rendu capable d'aimer d'une nouvelle manière. Et là encore, il faut faire attention de ne pas amener dans la vie chrétienne, dans la vie de nos églises, dans notre vie familiale, notre vieille conception de l'amour, celle que nous avions en dehors de Christ, simplement en la sublimant, en lui donnant quelques titres de noblesse. Trop souvent, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous prolongeons notre amour humain, celui que nous avions en dehors de Christ, quand nous sommes convertis, et nous lui donnons simplement des titres de noblesse, nous le parons de quelques vertus bibliques, et nous nous étonnons que ça ne marche pas. Notre amour est marqué au coin du péché. Il est gangréné. Nos conceptions au sujet de l'amour sont souvent complètement faussées par notre hérédité, par notre éducation, par notre tempérament, par le milieu dans lequel nous gravitons. Et nous avons vraiment besoin d'une révolution dans notre mentalité pour saisir la réalité juste de l'amour de Dieu. Un auteur a remarquablement résumé une définition, si tant est qu'on puisse en donner, de l'agapé. L'agapé, souligne-t-il, est lié à la pensée. Ce n'est pas une simple émotion qui soudain apparaît, mais un principe selon lequel on choisit délibérément de vivre. Et l'agapé est aussi étroitement lié à la volonté. Elle implique la conquête, la victoire, l'accomplissement. Personne n'a jamais aimé ses ennemis spontanément. C'est pourquoi nous devons vaincre nos inclinations et nos émotions naturelles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, dans nos pays, il y a tant de couples qui divorcent? J'ai vécu ces deux dernières années dans mon proche entourage. Toute une série de divorces, de jeunes couples, convertis à Jésus-Christ tous les deux, semble-t-il, et qui pourtant au bout de 3 mois pour certains d'entre eux, 1 an pour un autre, se sont quittés et ont divorcé. Quel était l'argument central qui les a conduits au divorce? Eh bien, un jour, l'un des deux a dit à l'autre, je t'aime plus. Ben oui, c'est comme ça, je t'aime plus. C'est pas de ma faute, j'ai plus de sentiments pour toi. Je t'aime plus. Si je t'aime plus, je vais pas vivre toute ma vie avec toi, tout de même. Je te quitte. Je t'aime plus. Ouais. Ses amis ne savaient pas ce que c'était que l'amour. Ils ont vu dans l'amour une impulsion venant des tréfonds de l'être qui fait tressaillir l'individu émotionnellement. Et qui bien vite retombe. Ils n'ont vu qu'une dimension, une petite expression de l'amour. Mais en tout cas, ils ne connaissaient rien quant au fondement, quant à la structure, quant à l'essence même, la nature même de l'amour, qui ne se situe pas d'abord au niveau des émotions, des sentiments, mais au niveau de la pensée, de la volonté, et qui se traduit dans l'action. Et c'est vrai que cet amour, nous devons le recevoir d'en haut. Je citais, je crois, l'an dernier, il y a 2 ans, cette parole de Jean Cocteau. Définition de l'amour. Le verbe aimer est décidément le plus difficile à conjuguer de la langue française. Son passé n'est jamais simple. Son présent n'est qu'imparfait. Et son futur est toujours conditionnel. Je souhaite beaucoup de courage à la traductrice en italien qui m'entend en ce moment. Je le redonne, je pense que vous avez attaché vos ceintures entre-temps. Hein. Le verbe aimer, décidément le plus difficile à conjuguer de la langue française. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur est toujours conditionnel. Je pense à cet auteur Maurice Clavel qui est décédé mais qui a écrit de très belles choses et qui, faisant allusion à Jean XIII, écrivait ceci: est-il humain d'aimer les hommes? Non, c'est divin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ne souffre pas l'intervention d'une virgule, c'est d'un trait. Et Jésus n'y donne pas le modèle, mais la matière de cet amour, c'est-à-dire lui-même. Lui-même. Alors quand le Saint-Esprit remplit mon cœur, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mes relations horizontales changent. Je ne suis plus d'abord une éponge, je suis plus une pieuvre, une pompe ou une sangsue. D'ailleurs, c'est curieux, dans les Écritures, la sangsue déraille complètement. Voilà que la sangsue se marie, elle met au monde 2 enfants, 2 filles, et quand il s'agit de leur donner des prénoms à l'état civil, quand l'officier d'état civil lui demande « Alors, quel prénom donnez-vous à la première ?» Elle dit « Ben, je l'ai appelé Don. » « Ah bon, Don ?» écrit Don. « Votre deuxième petite fille, vous l'avez appelée comment ?»« Don. » »« Pardon, c'est la première. » »« Non, c'est la deuxième. » »« Ben, c'est la première ou la deuxième ?»« Mais, monsieur, ce sont les deux. » La sangsue a 2 filles. Donne, donne. C'est Proverbe, chapitre 30, verset 15. Donne, donne. Alors je peux donner. Je peux donner, oui. L'amour dont Dieu me remplit. Au lieu de toujours courir après l'amour de l'autre. Cet amour va travailler au bonheur et à l'épanouissement de l'autre sur tous les plans. Un académicien français a écrit ceci: « L'amour est un pépin qu'on peut soit planter pour en faire un arbre, soit sucer et jeter. » Et c'est vrai pour le mariage, n'est-ce pas ? Est-ce que je vais recracher au bout d'un certain temps parce que j'ai fait le tour? comme les chewing-gums, tant qu'il y a du sucre, ça va. Quand il n'y en a plus, hein. Et puis les autres glissent en plus. Et j'aime cette définition. L'amour est un pépin qu'on peut soit planter pour en faire un arbre, soit sucer et jeter, parce qu'il donne une définition qui est bibliquement juste, dans ce sens que planter signifie que le pépin va mourir. Il va mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable amour sans souffrance. Cette souffrance à laquelle on cherche absolument à échapper, n'est-ce pas, dans le monde moderne, dont on refuse d'essayer de comprendre une quelconque signification de construction. C'est vrai qu'il y a des côtés légitimes dans l'apaisement à la douleur. Mais ce qui est grave, c'est quand on ne veut plus essayer de se poser des questions. Est-ce que la souffrance a une dimension de construction ? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose ? Eh bien, la souffrance est indissociable d'un véritable amour. D'ailleurs, les idéogrammes chinois associent ces deux concepts d'amour et de souffrance dans un symbolisme éloquent. La plus haute expression de l'amour est représentée par les deux symboles de l'amour et de la souffrance peints l'un sur l'autre pour former un idéogramme que l'on pourrait rendre par souffrance-amour. Aimer dans le mariage, dans la vie conjugale, dans la vie familiale, dans la vie ecclésiale, dans nos relations avec les autres, c'est savoir que l'on va souffrir. L'amour de Dieu est un amour qui a accepté de se manifester au plus haut point dans son essence, dans la souffrance engendrée par l'incarnation, jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est C.S. Lewis, ce philosophe évangélique britannique remarquable, qui a écrit ceci. Aimer tant soit peu, c'est être vulnérable. C'est risquer d'avoir le cœur déchiré, voire brisé. Pour le garder intact, il faut ne le donner à personne, pas même à un animal. L'emmitoufler de marottes, de petites douceurs, lui éviter toute complication sentimentale, l'enfermer dans le coffret de notre égoïsme comme dans un cercueil, privé d'air, de lumière et de mouvement. Dans ce réduit inaccessible, il sera invulnérable, impénétrable, inamendable. Vouloir éviter les drames, ou même les risques de drames, c'est se damner. Le seul endroit hors du paradis où l'on soit parfaitement à l'abri de tous les dangers et de tous les tourments de l'amour, c'est l'enfer. Heureux suis-je si je peux envisager le mariage, la vie conjugale, l'éducation des enfants, la vie ecclésiale, mes relations avec d'autres sous cet angle majeur. Ça change tout. Mais alors, je me rends compte au même moment combien ma relation avec Dieu va être importante. Parce que c'est lui qui le donne. C'est lui qui développe dans mon cœur le fruit de l'esprit, l'amour par excellence dans ses composantes, dans ce prisme. Cet arc-en-ciel de lumière, cette miniature du caractère de Christ. Donc je termine là parce que le temps passe, nous y reviendrons dans la suite de l'étude, en disant que la famille ne doit pas être pour moi une fin en soi, un moyen de satisfaire mes besoins, mes caprices. Elle doit être le premier lieu où aimer et donner ce que j'ai reçu de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant pourquoi, en particulier hier matin, et je m'adresse à ceux et celles qui étaient là hier matin, nous avons lu Éphésiens 5, sur lequel nous reviendrons. Mais nous n'avons pas commencé notre lecture là où on la commence habituellement lorsqu'on évoque le mariage. En général, on commence au verset 22, ce qui froisse ces dames, et je le comprends. Commencer dans une cérémonie mariage par Éphésiens 5, 22, c'est faux. C'est faux. C'est faux parce qu'on peut comprendre n'importe comment. Et ça, ça vient de la manière dont on a fait le découpage de notre texte biblique. Il faut se souvenir que le découpage en paragraphes, en péricopes, en chapitres et en versets n'est pas inspiré. Et que d'ailleurs, pour nos versions françaises, pour la première en tout cas, celui qui l'a fait entre Strasbourg et Paris l'a fait à cheval. Et on a dit en s'amusant que certainement, il s'était trompé dans son découpage dans les moments où son cheval avait des problèmes, n'est-ce pas, et heurtait une pierre. Alors hop, ça dérapait à quelque part. Mais c'est vrai, le découpage entre le verset 21 et 22 en mettant un trou avec un sous-titre est faux. Parce que dans le texte original, tout ça, c'est une phrase. Au point même qu'au verset 22, le verbe « être soumis » n'est pas mentionné dans le texte grec. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais en réalité, c'est le verset 21 qui est repris, n'est-ce pas? Et donc on lit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, vous femmes, chacune à son mari ». Vous vous soumettez les uns les autres, et vous, femmes, chacune à votre mari. Mais ça veut dire qu'il y a déjà eu un message pour le mari avant. Et en fait, il ne faut pas commencer non plus au verset 21. Et il faudrait d'ailleurs commencer au début de l'Épître aux Éphésiens. Hein, ce qu'on ne peut pas faire. Mais si on ne peut pas faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas au chapitre 4, verset 30 ? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi ? Mais parce que, après, vous avez, au chapitre 5, au chapitre 5 et au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est du désordre, c'est du dérèglement, ça mène à la débauche, à la perdition. Soyez, au contraire, continuellement remplis de l'esprit. » C'est ça la base du mariage. Dans le fond, quand on fait une prédication sur le mariage, on devrait parler de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit quand on s'adresse à deux personnes qui sont en Christ et qui se marient. On peut leur dire, mais vous savez, la base, avant de vous donner tous les conseils possibles et imaginables pour que vous viviez une vie heureuse, dites-moi, est-ce que chacun d'entre vous, vous êtes rempli du Saint-Esprit ? J'ai pas dit baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'être baptisé du Saint-Esprit, selon les Écritures, ça se fait à la nouvelle naissance. C'est mon identification dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Je fais un, je suis plante avec lui, n'est-ce pas ? Je vide sa sève. J'ai dit rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit conduise vraiment ma vie, qu'il la domine, qu'il me pénètre, qu'il soit au poste de commande, n'est-ce pas ? Et c'est dans cette mesure-là qu'alors je suis rendu capable d'aimer de la bonne manière, avec les chutes, avec les trébuchements, avec la nécessité de revenir à la croix, avec la nécessité de demander pardon, avec les conflits qui existeront inévitablement dans la vie de couple, on parlera des conflits. Mais c'est quand même la base. Et trop souvent, disons-le, ben la base, nous l'avons oubliée. Et nous sommes plus intéressés par toutes sortes de trucs pour que ça marche que par la qualité de ma relation personnelle avec Dieu et l'autorité du Saint-Esprit au levier de commande de ma vie personnelle pour que ma relation avec l'autre soit une relation juste. Permettez que je termine par ce témoignage. Il est si beau. Et je préfère le donner dans cette conclusion, et je m'arrêterai. C'est le témoignage d'un serviteur de Dieu qui donne un message dans une église en Californie. Et à la fin de ce message, dans une église dans laquelle il est de passage, il remarque deux amis qu'il n'avait pas revus depuis plusieurs années, qui avaient fait partie de son église dans une autre région. Et il se rappelle que Joe avait ouvert son cœur à Christ à l'âge de 70 ans. Et il dit, il m'avait écrit récemment pour me demander de prier parce que sa femme et lui traversaient des moments difficiles. Et il continue, tandis qu'ils approchaient, à la fin de cette réunion, je vis les beaux cheveux blancs de Hélène. Je la regardais dans les yeux et je sus tout de suite qu'elle ne me reconnaissait pas. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Elle se tenait là en sécurité à côté de son mari et des larmes se formèrent dans les yeux de Joe quand il dit, David, il s'adresse au pasteur, quand quelqu'un qu'on aime a la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment difficile. Joe est le portrait même de la santé, un mordu de la forme physique. Il est encore attirant et actif. Mon cœur avait compassion de lui. Puis il dit, j'ai fait un vœu, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et la santé, d'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce n'est qu'avec l'aide de Dieu et ma foi au Seigneur Jésus que je puis demeurer auprès d'elle. Grâce à cela, je vais la protéger. Et c'est ce que Joe fit jusqu'à ce que Dieu vienne chercher Hélène. Un homme de Dieu converti tard, mais qui avait compris que dans le mariage, leur hesed est fondamental. La loyauté jusqu'au bout. Parce que si Dieu s'est engagé sur la base d'un contrat et a fait alliance, le mariage est plus que l'amour. Le mariage est un contrat, est une alliance, nous y reviendrons. Et c'est ça ce qui va donner force à notre amour pour aller jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances que nous aurons à vivre ensemble. Seigneur, merci. Merci d'avoir pu pénétrer ensemble sur un terrain si particulier, si saint. Nous avons balbutié au sujet de ton amour. Et Seigneur, nous serons tellement surpris lorsque nous te contemplerons dans la gloire et nous nous rendrons compte combien nous étions loin d'avoir une pensée juste sur les dimensions et la profondeur de ton amour. Le miracle, Seigneur, c'est que tu acceptes de remplir notre vie de cet amour. Tu nous donnes un cœur nouveau. Tu déposes en nous, en quelque sorte, des graines de ton amour pour qu'elles se transforment en plants que tu chéris et en fruits délicieux pour toi et pour ceux qui nous entourent. Merci pour ce miracle qui a commencé au moment de notre nouvelle naissance. Mais Seigneur, aide-moi à vivre quotidiennement dans ton intimité pour recevoir de toi cet amour renouvelé, purifié, qui donne et qui se donne, dont j'ai tellement besoin pour avoir une juste relation avec les autres. Fais-le dans ma vie, fais-le dans nos vies à chacun. Pour ta gloire, en Jésus-Christ.